Sixième partie. Tandis qu'il méditait, Simone reparut seule. « Voulez-vous m'accompagner au château ? » dit-elle. « Votre présence sera probablement nécessaire. »« Et pourquoi ? » demanda-t-il. « Pour interroger Tenaille et Choléra. » Le visage de l'inspecteur marqua une stupeur agacée et vaguement agressive. Vous voyez donc que Choléra n'a pas tout dit. Oh, elle a dit tout ce qu'elle savait, je le crois. Alors, Simone eut le sourire malicieux de la femme. Oh, est-ce que cela suffit? Oh, bougonna-t-il, vous me faites monter à l'arbre, mademoiselle. Tout en parlant, il l'avait suivie. On discernait l'automobile arrêtée au clair des sonneurs. « Faudrait que je fusse bien ingrate. Si jamais cette affreuse affaire s'éclaircissait, c'est bien à vous et à Martial que nous le devons. Mais est-ce Martial et moi qui avons fait retrouver Madame de Escalante ? Oh, sans contredit, par exemple, je serais curieux de savoir comment. Ils étaient arrivés au clair des sonneurs. Simone donna des ordres au chauffeur et s'installa dans la voiture avec le détective. « Mais ce n'est pas bien compliqué, » riposta-t-elle. « Tout d'abord, vous avez développé en moi un instinct que j'ignorais. Avec un autre que vous, moins ingénieux, moins imaginatif, je n'aurais pas même songé à débrouiller des événements dont la complication m'apparaissait effrayante. » En développant tant d'hypothèses subtiles, vous m'avez rendu curieuse jusqu'à la fièvre, et vous avez surexcité mon intuition. Il m'était précieux de connaître ce qui était possible et ce qui était impossible. Et qui pouvait mieux me renseigner que vous? Toutefois, jusqu'à l'arrestation de Martin, je n'en restais pas moins plongé dans les plus épaisses ténèbres. Je croyais à une machination prodigieusement embrouillée. Mais l'arrestation de Martin et ses aveux commencèrent à m'ouvrir les yeux. Et je me suis dit, c'est peut-être pas aussi enchevêtré que ça. Si on essayait de simplifier l'affaire. Et vous m'avez encouragé dans cette voie avec votre idée d'un double plan. D'un plan de rechange, comme vous disiez. Et j'ai d'autant moins cru à l'existence d'un tel plan que Madame de Escalante avait, presque à coup sûr, été débarrassée de tout poursuivant pendant son arrêt dans la crevasse aux Mensanges. Et cette circonstance faisait un gros trou dans la combinaison. Et ma conviction s'est affirmée après l'interrogatoire de Tenaille et de Choléra. La manière dont s'y est pris le petit homme pour faire agir le bandit m'a semblé habile, mais pas particulièrement organisée. Et pour tout dire, j'ai eu l'impression d'un individu hardi, hasardeux, assez original, mais nullement d'un homme entraîné au crime, et surtout au crime qui exige de nombreux complices. Bien entendu, sur ce dernier point, je suivais surtout mon intuition. Elle était logique, avoua le détective, et conforme à l'expérience. Moi-même, j'ai eu une impression analogue, mais hypnotisée par la disparition de Madame de Escalante, je ne pouvais me délivrer d'une obsession d'assassinat ou d'enlèvement. En somme, ma conversation avec Choléra était décisive, poursuivit Simone. Je n'ai plus guère été capable d'admettre ni l'enlèvement ni l'assassinat. L'idée que ma marraine avait pu se sauver est presque devenue une conviction. Seulement, cette idée se heurtait à des objections bien troublantes. On pouvait difficilement supposer que Madame de Escalante fut loin et eût-elle trouvé un véhicule pour l'emporter. Il aurait fallu un ensemble de circonstances improbables et admettre une bizarre entente avec le conducteur de la voiture. Et sans écarter absolument l'hypothèse, je me suis attaché à la supposition normale. La fugitive avait trouvé un refuge dans le pays, chez des amis sûrs. Mais lesquels? Martial, Michel et moi avions à peu près interrogé tout le monde. Mais n'étiez-vous pas arrêté par la pensée que, vivante, Madame de Escalante vous aurait spontanément donné de ses nouvelles? Si, mais moins que vous ne pourriez le croire. D'abord, je supposais qu'elle était blessée. Enfin, je connais son caractère et son tempérament. Elle a infiniment d'imagination, et cette imagination est tragique. Plus que nous, elle a dû croire à des trames extraordinaires, à des conjurations inouïes. De là à conclure que le mieux est de se terrer, loin de tous, loin même de moi, qu'elle ne jugeait certes aucunement menacée, il n'y a qu'un pas. J'hésitais, me perdais en conjectures, lorsque vous êtes venu rapporter les propos de Mazargues. À l'instant, tout s'est enchaîné. Vous voyez que c'est plutôt simple. Après coup, grommela Duguay, il n'y a pas d'affaire qui ne paraisse relativement simple lorsqu'elle est débrouillée. Vous avez été extraordinairement habile, et je me marquerais un gros point si j'avais été autant que vous. Un silence. L'auto filait en grande vitesse sur les routes désertes. On approchait du village. On apercevait déjà la tour baroque des Saint-Michel et Nicolas et le château des Éperviers. Nous allons vraiment tenter quelque chose de nouveau là-bas? Demanda soudain Duguay. Oh, il n'avait pas repris sa bonne humeur, mais il n'était plus aussi maussade. Sa philosophie pratique tirait de l'aventure un enseignement dont il comptait profiter à l'avenir. Eh oui, repartit Simone. Voilà qui m'intrigue prodigieusement. Quelque chose qui pourrait nous mettre sur la piste du meneur? Oh, si cela réussit, oui. Le détective eut un petit geste d'impatience. Ses yeux ne cachaient plus leur curiosité. Et comptez-vous réussir? Oh, j'y compte un peu moins que je ne comptais retrouver Madame de Escalante chez Madeleine. Elle eut le même sourire malicieux que tantôt, et elle donna l'ordre au chauffeur de ralentir. On longea le village et l'on atteignit enfin le château. Simone descendit prestement, se rendit au petit salon et sortit d'un tiroir quelques menus panneaux où elle avait peint la tête d'un homme. Elle remit un de ces panneaux au détective. Voulez-vous demander à Tenaille, fit-elle, s'il reconnaît cette tête? De mon côté, je voudrais parler à Colera. L'inspecteur regarda la tête, regarda Simone, mordit sa lèvre mince et proféra: Oh, ça! Mais c'est le fond de l'extraordinaire! Puis, roidissant les muscles de son visage, si vous me le permettez, je verrai tout d'abord Tenaille. Oui, cela vaudra même mieux. Le détective sortit à grands pas. Il se dirigea vers la penderie où l'on détenait le sieur Tenaille, se fit ouvrir la porte cadenassée par les soins des gendarmes, entra et s'adressant aux drilles. Eh, plus de blagues, vieux Bip. On sait tout. Et surtout, ne va pas dire que tu ne reconnais pas cette tête. Ça prendrait pas. Benaï jeta un regard morne sur le panneau. Ses yeux s'arrondirent, sa bouche laissa échapper un sifflement. Le petit gosse, grogna-t-il. Pas d'erreur, éjacula le détective. C'est bien lui. Mais puisque vous le savez, ricana l'assassin. Il eut un rire opaque. Mais où que tu l'as passé? Ça serait pas trop tôt. qui brûlent leur enfoncement. » Quand Duguay reparut devant Simone, il était positivement pâle. « Il a reconnu, » fit-il haletant. « Oh, j'avoue que ça m'a donné le plus rude coup que j'ai jamais reçu dans le cours de ma carrière. « Je voudrais encore l'aveu de choléra, » dit-elle. L'inspecteur l'amena lui-même près de la fille. « Tu sais, » ronchonna celle-ci en tournant vers Duguay une face gouailleuse, « t'as qu'à foutre le camp, j'ai rien à te dire. Tant qu'à mademoiselle, tout ce qu'elle voudra. » Duguay ne se le fit pas répéter. Dès que Simone fut seule avec la drôlesse, elle exhiba le panneau. « Vous le reconnaissez ? » demanda-t-elle. « Plutôt deux fois qu'une, ces salauds de petits gonces. Vous en êtes sûr ? Oh, pour ça ! Il y aurait bien quelque chose à dire sur la manière dont il est coiffé, et puis deux ou trois, rien du tout, mais pour l'ensemble, ça y est en plein. » « Eh bien, » demanda impatiemment le détective, lorsque mademoiselle de Vaugelard sortit du réduit où l'on détenait choléra. « Elle le reconnaît. »« Et alors ?»« Alors ?» soupira Simone. « Nous allons tâcher d'en finir avec cet abominable cauchemar. »« Oh, finir !» s'exclama l'inspecteur. « Est-ce à dire, mademoiselle, que vous n'avez... qu'un geste à faire pour atteindre le coupable. Oh, si je ne me trompe pas, oui. Effarant. Et si vous vous trompiez? Oh, je craindrais que l'affaire ne demeura longtemps sans issue. Une étrange mélancolie passa sur le visage de Simone. Monsieur, reprit-elle après un moment de rêverie, voulez-vous avoir l'obligeance de m'accompagner? « Mais je suis à vos ordres, mademoiselle, » fit-il d'un ton pincé. Simone s'arrêta devant une fenêtre du corridor et jeta un coup d'œil sur la pelouse. Là-bas, sous un hêtre rouge, Michaela de Vargas feuilletait une revue. « Tant mieux !» soupira mademoiselle de Vaugelade. Elle traversa vivement le corridor, suivie du détective, et alla frapper à la porte de la dernière chambre. Duguay eut un tressaut. Ses yeux froids scintillèrent. « Entrez !» cria une voix de contralto. Mademoiselle Constanza de Camboa reposait dans un profond fauteuil rouge. Ses yeux noirs se fixèrent sur Simone. Le détective, avec une curiosité dévorante, examina ce visage safrané où se mêlaient si étrangement la tendresse et l'inquiétude. « Du nouveau ?» demanda Constanza de sa voix ensemble veloutée et rauque. Simone était fort pâle et tremblait. « Mais elle se tient mal, » songea l'inspecteur. L'instinct professionnel, plus fort que le dépit, le poussa à intervenir. « Oui, du nouveau, mademoiselle !» Il parlait de ce ton ensemble impétueux et énigmatique dont il usait en virtuose. Constanza s'était roidie. Sous son teint safrané, on voyait une pâleur presque égale à celle de Simone. Celle-ci, faisant un grand effort, murmura: « Hélas, nous savons tout. Nous connaissons celle qui a voulu faire assassiner Madame d'Escalante. » Une énergie fiévreuse animait les yeux clairs. « Mais celle qui a voulu faire assassiner Francisca, mais c'est donc une femme ?» dit Constanza d'une voix défaillante. « Mais c'est vous-même, mademoiselle !» dit forcément le détective, risquant le tout pour le tout. Constanza de Gamboa se mit à trembler comme une fourmi dans la tempête. Une épouvante affreuse dilata ses pupilles. Ce fut d'un de ces effondrements d'être où toute volonté s'abîme. Et l'inspecteur, Sentant qu'il avait devant lui une créature superstitieuse, chuchota mystérieusement « Quand l'heure est venue, personne ne peut échapper à son sort. » Constanza poussa une plainte sinistre, s'affaissa dans son fauteuil. Elle n'avait pas besoin d'avouer, sa personne tout entière la dénonçait. Une lassitude sans borne la livrait au destin. « Soit, murmura-t-elle, oh, je suis bien, je ne pouvais plus vivre ainsi. » Elle tordait ses mains ascétiques. Une nouvelle sorte de terreur fit vaciller ses prunelles, une terreur mêlée d'une immense tendresse et d'une honte mortelle. « Michaela !» soupira-t-elle. Elle élevait vers Simone des mains suppliantes. « Ayez pitié de moi !»« Ou plutôt, non, pas pitié de moi !» Pour moi, elle est inutile, et elle serait injuste. Mais pitié pour ma chérie, que vous importe? Qu'importe la justice, puisque je vais disparaître? Duguay et Simone se regardèrent. Mais ce serait un scandale pour Francisca même, ou pour sa mémoire, poursuivit Constanza, si elle vit. Elle vit, il ne put s'empêcher de dire Simone. Elle sera la première à vouloir que le nom d'une femme de sa race ne soit pas flétri par des juges. Un silence. De quelque manière que tourna l'affaire, le détective s'en lavait les mains. Il avait joué un rôle de comparse et ne se le pardonnerait pas de sitôt. « Il vaudrait peut-être mieux s'adresser au juge d'instruction, grommela-t-il. Bon, n'est-ce pas, ça va être indifférent. « Est-ce que vous ne tenez pas mes complices ?» demanda fiévreusement mademoiselle de Combeaura. « Oh, n'en avez-vous pas d'autres » fit-il, repris mécaniquement par sa curiosité. « Il y a eu ce Ramon. Il est mort. »« Oh, nous n'y irons pas !» marmonna le policier. « Mais il peut être utile de savoir dans quel but vous avez agi. »« Oh, jadis !» J'ai uniquement agi par amour pour Michaela. Nous le savons aussi, intervint Simone. Seulement nous avons peine à comprendre ce que vous espériez. Mon médecin m'avait confié que Don Joachim était mortellement atteint, et les cartes prédisaient que Francisca mourrait jeune. En faisant disparaître Rosarito, Michaela seule demeurait héritière. À cette époque, les parents du Michaela étaient pauvres, et moi, ajouta sombrement Constanza, je voulais que ma chérie fût riche. Si sceptique qu'il fût, Duguay admit cette genèse du crime. La physionomie de Constanza s'éclairait pour lui comme elle s'était éclairée pour Simone. Il comprit la passion profonde, presque démente, que cette vieille fille avait conçue pour sa nièce. « Ce Ramon était un coquin ?» demandait-il. « Non, c'était un très honnête homme. Il me devait en quelque sorte la vie, il a payé sa dette. »« Mais puisqu'il était mort, qu'aviez-vous donc à craindre ?»« Oh, sa femme apportait des révélations à Francisca, du moins je le croyais, j'ai perdu la tête. » « Pas tant que ça, remarqua sardoniquement l'autre. Vous avez mené hautement les négociations avec l'ami Tenaille. La manière de lui jeter l'appât, le déguisement. J'ai agi dans une espèce de délire. Jamais de sang-froid je n'aurais été capable de telle chose. » Après un nouveau silence, tragique pour Simone et Constanza, agaçant pour le détective. Nous allons réfléchir, fit enfin ce dernier, de son ton morne où toutefois transparaissait une confuse promesse. Quand il se retrouva seul avec Simone, il annonça : Cette personne ne vivra plus demain matin. Si on l'arrêtait, on ne ferait que hâter les événements. Elle doit avoir sur elle de quoi se tuer. Se tuer en un clin d'œil. Somme toute, Son suicide sera une solution propre et élégante. Pour elle, d'abord, cela va sans dire. Ensuite, pour mesdames de Escalante et de Vargas. Mais s'il en est ainsi, et je le crois comme vous, ne pourrait-on pas épargner sa mémoire? Oh, je ne sais pas. En fait, il n'y a aucun intérêt à ce que l'affaire soit entièrement débrouillée. Mademoiselle de Gamboa est décédée. Tenaille et compagnie recevront le salaire de leur joli travail. C'est tout ce qu'il faut dans la société. Par définition, la justice ne poursuit pas les morts. Mais elle tient à éclairer sa lanterne. Alors vous ne pouvez pas nous aider. Oh, il faut que je médite un peu là-dessus. Monsieur Dubar est absent. J'ai le droit d'aller faire une promenade en attendant. D'ici là, qui sait, les circonstances auront pris une tournure favorable. Il eut un haussement d'épaules plein de philosophique dédain et changeant de ton. C'est égal, vous méritez de rudes félicitations. Je ne vous cache pas que je suis un peu jaloux et que je me sens vaguement ridicule. D'autant plus que j'en ai le sentiment, jamais je n'aurais abouti dans cette affaire. Vous y avez introduit un élément psychologique qui, dans l'espèce, n'était pas à ma portée. Même il y a 1 heure, je vous aurais à peine comprise. La vue exacte de la demoiselle Constanza m'a dessillé les yeux. Je crois voir le trajet de votre pensée. D'abord, comme pour retrouver Madame de Escalante, vous avez abandonné les complications. Vous vous êtes demandé si ce que nous cherchions au loin n'était pas tout proche. Ensuite, vous avez songé que seule Mademoiselle de Gamboa avait eu intérêt à faire disparaître la petite. Et j'ai dit ici que c'était ma vivacité, votre finesse féminine. L'intérêt s'est trouvé indirect. La coupable voulait la fortune de Madame de Escalante, mais elle en la voulait pour une autre. Pour concevoir l'affaire de ce jour, il fallait avoir observé, observé profondément. Mais attendez, interrompit Simone. L'observation, si observation il y a, était facilitée parce que je connaissais depuis longtemps l'affection extraordinaire de la tante pour sa nièce, et aussi l'ardeur concentrée et excessive, un peu folle, qui anime Constanza. Ici, j'ai tiré parti d'une remarque que vous avez faite. Laquelle? N'avez-vous pas maintes fois répété que peut-être il y aurait à considérer l'intervention de quelque folie? Mais je parlais de folie amoureuse. Sans doute, mais toutes les affections extrêmes se ressemblent. Plus pondérée, la tante du Michaela n'aurait pas commis le crime. Oui, vous êtes tout plein gentil, fit Duguay d'un ton bourru, où perçait de la déférence et de l'attendrissement. Vous voulez absolument me donner une part dans l'affaire. Prétendrez-vous aussi que je suis pour quelque chose dans l'idée du portrait? Avoir repeint la tête de Mademoiselle de Gamboa. Selon le signalement donné par Colera, mais c'est un truc que j'envierais toute ma vie. Il tira à sa montre. Ah! Il faut que je me sauve. Lorsque le détective eut disparu, Simone ne se sentit pas le courage de revoir Constanza. Elle écrivit rapidement: Tout sera tenté pour accomplir votre vœu, et fit remettre le billet par une femme de chambre. Au moment où elle se disposait à sortir, le juge d'instruction apparut au bas du grand perron. Il avait l'air plus animé que d'habitude et dès qu'il vit Simone, il demanda: Est-il vrai qu'on a retrouvé Madame de Scalante? Oui, c'est vrai. Et qui donc l'a retrouvée? Oh, je crains que ce ne soit moi. Capital, dit-il d'un ton joyeux. Du Guet doit être un peu vexé. Il se frottait les mains, heureux une fois encore de n'avoir formulé aucune vaine hypothèse. Être de circonstance avait travaillé pour lui. Il entrevoyait les fruits savoureux de l'avancement. Mais le voilà à peu près au terme. Tout le monde a bien travaillé, mademoiselle. Vous, l'homme au chien, Duguay, qui après tout est un habile homme, monsieur le Beaujard, nous nous souviendrons avec gratitude de l'indulgence avec laquelle vous avez accueilli tous les concours. C'est un bon système, fit le juge avec complaisance. Il faut décourager aucune bonne volonté. La méthode expérimentale, des faits et puis encore des faits. Les faits finissent toujours par parler d'eux-mêmes. Il y a bien encore un événement, fit Simone, mais je voudrais d'abord en voir la suite. Eh, sans doute, allez, pas de main de hâte, nous en reparlerons quand vous le jugerez convenable. Ayant mis ses scrupules à l'abri, Mademoiselle de Vaugelade murmura. Monsieur Duguay, je crois bien, estime que son rôle est terminé. Mais le crois aussi, appuya Dubar, qui aimait autant finir seul une affaire qu'il jugeait désormais sans aléa. Les chefs sauront qu'il a bien manœuvré, malgré un excès d'hypothèses, mais chacun a ses petites tares. Il eut un rire bénévole. Et croyez-vous que Madame de Escalante soit disposée à faire sa déposition aujourd'hui? « Oh non !» répliqua vivement Simone. « Son état ne lui permettrait pas. » Dubar n'avait parlé que pour la forme. Il préférait de beaucoup attendre. « Quelle chose en son temps » acquiesça-t-il. Et il rentra avec son greffier dans la chambre que les Vaugelades avaient mise à sa disposition. La jeune fille allait monter en voiture, lorsque la femme de chambre de Costanza vint lui remettre une enveloppe. Simone la décacheta et lut. « Merci, l'expiation sera moins amère. » Un frisson d'horreur et de pitié bouleversa Mademoiselle de Vaugelade. La fatalité pesa sur elle et la remplit d'épouvante. Que faire cependant ? Aucun acte ne pouvait sauver cette malheureuse. Au rebours, toute tentative d'intervention ne ferait que hâter le dénouement inexorable. Pendant une minute, Simone demeura comme paralysée. Puis, avec un soupir, elle monta en voiture et commanda « Au clair des sonneurs !» Épilogue. Les jours avaient écoulé dans la clepsydre éternelle. Costanza avait disparu au fond de ce grand rêve qu'est le passé des êtres et des choses. Le sieur Tenaille, Martin et Courte-Échelle attendaient dans le calme des geôles l'air d'être salé et fumé. Monsieur Dubar n'ignorait point qu'une promotion méritée lui permettrait d'aspirer bientôt à des fiançailles somptueuses. Et Duguay, après une période de neurasthénie, connaissait une gloire nouvelle avec l'affaire Pâturale où il déployait les plus astucieux génies. Cet après-midi, il était enchanté, ces cimes redoutables, où naguère Francisca d'Escalante fuyait devant ses assassins. L'heure sonna poussive au clocher des Saint-Michel et Nicolas, éclatante et fraîche à la tour des Éperviers. Les ombres étaient longues et s'étalaient démesurément à l'orient des collines. Une grâce voluptueuse, s'épandant sur les herbes et les feuillages, faisait songer au vers troublant du poète, et c'est toi qui, rythmant les divines étoiles, fait tressaillir d'amour le cœur de l'univers. Ils étaient trois sur la terrasse, Francisca, Michel et Simone. On voyait, à l'orée du parc, une petite fille dont les cheveux retombaient en toison noir sur les épaules et que surveillait une femme bistre au profil de maugrabine. Francisca rêvait avec langueur. L'oubli était en elle, l'oubli divin, sans quoi la vie n'aurait pu persister parmi ceux que la haine appelle les hommes à la voix articulée. Elle se souvenait bien de sa course à travers les pénombres, de la minute où elle avait senti le frôlement de la mort, de sa fuite dans la barque cachée parmi les roseaux, de son attente à la crevasse aux mésanges. Mais les sensations terribles avaient disparu. Elle ne pouvait se rappeler qu'infidèlement son épouvante, sa fièvre et son désespoir. De tant d'épreuves, il restait la jeunesse, la beauté, la féerie de l'heure et des vœux incertains qui fleurissent au fond des âmes comme les stellaires dans les forêts. Elle contemplait avec ivresse la petite Rosario, revenue aussi mystérieusement que si elle sortait du pays des ombres. Les rêves de Michel avaient plus de rudesse. Son amour était en lui comme un fauve. Le grand garçon scrupuleux s'effarait d'aimer Francisca, et le problème ne pouvait se résoudre qu'en étranglant le fauve ou en prenant honnêtement la fuite. Simone s'abandonnait à la fable du présent. Elle laissait aller et venir ses pensées et n'aspirait pas au lendemain. Oh, elle n'était pas inquiète non plus du sort des autres. De son incursion dans l'aventure, elle gardait un sens aigu de l'inévitable et la volonté de l'accueillir les circonstances plutôt que d'aller à leur recherche. Elles seront toujours assez riches, nombreuses et passionnantes. Comme elle méditait ainsi, Michel se leva et se mit à errer sur la pelouse. Alors Simone se rapprocha de Madame de Escalante. Savez-vous qu'il va partir? Dit-elle. Francisca avait tressauté. Partir? Oh, mais je croyais que vous le saviez, murmura la jeune fille. Elles se regardèrent. La fine Simone avait pris une sorte d'ascendant sur l'étincelante et tragique Francisca. Les yeux noirs avouèrent leur secret et que toute joie serait assombrie si Michel quittait le domaine. Non, non, ce ne sera point, chuchota Madame de Escalante. Leurs mains s'étaient jointes. Toute sécurité, toute douceur était auprès de cette fille argentine et de ce sauvage Michel. Elles descendirent à leur tour sur la pelouse. La petite Rosalito courait vers Michel. Elle voulait qu'il la portât au bord du miroir d'eau. Et tandis qu'il obéissait, Francisca vint à leur rencontre. Et quand elle fut proche, elle dit: C'est vrai ce que m'a dit Simone, vous voulez partir? Il devint pâle et baissa la tête. Mais moi je ne veux pas, ordonna-t-elle. Il la regarda et se mit à trembler. Puis, s'agenouillant, il tendit Rosarito, qui riait avec un bruit de source. Des abois s'élevèrent. Loup-garou parut, flexible, sournois et farouche. Puis Dévorant montra sa tête aiguë. Martial suivait, aussi loqueux et plein de la même joie indomptable. Martial, dit Francisca, vous nous conduirez demain à la fontaine des fiançailles. L'ombre des collines remplissait la pelouse, et ceux qui se tenaient là ne sentaient plus la marche immense de l'éternité.